Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
François d'Orcival et Thierry de Montbrial accueillent dans cette émission le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet.
Monsieur le Président et chers confrères, je voudrais vous remercier d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie aujourd'hui. Thierry de Montbrial et moi, nous nous réjouissons de cet entretien que nous allons avoir avec vous avant que vous ne présentiez votre communication devant l'Académie des sciences morales et politiques, dont le sujet est la surveillance de la compétitivité dans une union monétaire. La vérité, je vous propose que cet entretien soit en quelque sorte la préface de votre communication, dans la mesure où nous allons nous entretenir de l'actualité. Celle-ci est très chargée. Elle occupe toute l'Europe et toute l'Europe se retourne constamment vers vous, au point que demain soir, si j'ai bien compris, vous partez pour la Chine, pour le G20, que le G20 traite de l'actualité financière mondiale, mais aussi de nos affaires européennes. Or, ce que l'on constate, c'est que la semaine dernière, le Premier ministre portugais tombait sur une censure. La semaine précédente, le Premier ministre d'Irlande était battu par un nouveau Premier ministre, donc d'opposition. Madame Merkel vient de perdre un point fort de ses élections locales. Et en France, on ne peut pas dire que le résultat des élections cantonales soit meilleur. Or, tout ceci fait d'une certaine façon référence à la situation de nos finances publiques à travers un mot, plan d'austérité. Et donc, Thierry de Montbrial et moi, nous allons un peu revenir pour vous interroger sur ce point qui est cette crise des finances publiques européennes est-elle encore devant nous ? Dans quel état estimez-vous que nous nous trouvons aujourd'hui, comment les gouvernements peuvent-ils réagir en face d'opinions publiques hostiles ?
Je ne me prononcerai pas sur le fonctionnement de nos démocraties. Comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne émet la monnaie pour 17 démocraties européennes, qui sont toutes des démocraties exemplaires. Et donc la probabilité d'avoir des élections en permanence est évidemment excessivement grande, puisque ces démocraties n'ont pas les unes et les autres, coordonner en quelque sorte les diverses élections. Donc nous vivons en permanence, bien entendu, avec des élections. Vous m'interrogez essentiellement sur la question des finances publiques. Et je voudrais insister sur le paradoxe européen de ce point de vue et le paradoxe de la zone euro. Si je prends la zone euro en consolidée, si je consolide les 17 économies et donc les 17 finances publiques, j'obtiens un résultat qui sera cette année, selon toutes les prévisions et selon les institutions internationales, deux fois meilleur que celui du Japon, deux fois meilleur que celui des États-Unis d'Amérique et meilleur que certains pays très importants qui sont dans l'Union européenne mais hors de la zone euro. En gros, nous serons entre 4,5 et 5% probablement lorsqu'on fera tous les comptes. Dans d'autres pays, il se peut que l'on soit entre 9,5 et 10. Et ceci est vrai cette année, c'était vrai l'année dernière. Donc la situation, comme je le disais, est paradoxale, puisque vous avez spontanément, et je le comprends parfaitement, parlé de crise budgétaire en Europe. Parce que nous avons un certain nombre de pays, heureusement un petit nombre, mais un petit nombre de pays, qui se trouvent dans une situation très difficile de ce point de vue, et qui ont une influence, évidemment, sur les autres pays parce qu'il y a le lien extrêmement fort de l'union monétaire. Et donc, je dois dire que nous y voyons pour notre part, à la Banque Centrale Européenne, moi-même, qui ai prêché pour les finances publiques sages, une confirmation de ce que nous avons toujours dit. Quand on crée une monnaie unique, sans avoir de fédération politique achevée, bien sûr, sans avoir de budget fédéral, il est très important d'avoir une surveillance étroite des politiques budgétaires de chacun des pays pour s'assurer de la cohésion d'ensemble de l'union économique et monétaire. Au niveau consolidé, comme je le disais, le résultat est meilleur que celui des autres grands ensembles industrialisés. Au niveau de chaque pays, il y a eu défaillance de la surveillance et nous demandons un formidable renforcement de la surveillance des politiques, pas simplement d'ailleurs des politiques budgétaires, mais en particulier évidemment des politiques budgétaires.
Thierry de Montbrial.
Oui, je crois que ce que vous venez de dire soulève en fait deux questions, toutes les deux sans doute très difficiles. Bon. La première, c'est que cette surveillance, et là je reviens à la question de François d'Orcival, il faut qu'elle soit acceptée démocratiquement, parce que nous vivons dans des démocraties, pour le meilleur ou pour le pire, et s'il y a un rejet des disciplines par certains pays, et en particulier si ça contamine aussi les grands, je ne vois pas très très bien comment on peut se tirer d'affaire. Donc il y a effectivement une question politique que je reformule de la manière suivante, c'est est-ce que, en faisant le pacte de l'euro, nos démocraties ont véritablement intégré les conséquences politiques de cette création ? Ça, c'est le premier point. Et la deuxième question, tout aussi redoutable, vous venez de nous dire, en effet, est-ce que la situation de l'Europe consolidée est meilleure que celle des États-Unis et du Japon ? Mais là, il y a deux points. D'abord, les États-Unis ont leur propre monnaie, ainsi que le Japon. Et il y a un potentiel de crise, je pense surtout aux États-Unis, qui est énorme. Si je suis bien informé, les besoins de financement du Trésor américain sont actuellement quasiment entièrement satisfaits par la planche à billets, pour parler familièrement. C'est-à-dire qu'au-delà du mois de juin et du mois de juillet, se pose le problème soit du renouvellement de la planche à billets, là je parle le vocabulaire de tout à chacun, ça peut durer un certain temps, mais un jour ou l'autre, il y aura une crise de confiance. On voit très mal comment il pourrait en être autrement. Donc la question de l'euro s'insère dans un cadre plus général de désordre monétaire et je crois que nous aimerions beaucoup avoir vos commentaires sur ces deux questions.
Deux questions qui sont évidemment, comme vous l'avez souligné, absolument cruciales. Sur la première, c'est-à-dire le fonctionnement de nos démocraties, il est clair qu'avec le choix de la monnaie unique, nos démocraties, sous des formes diverses, mais toutes les démocraties européennes sont exemplaires. Certaines ont eu recours au peuple, ont dû changer leur constitution pour donner en particulier l'indépendance à la Banque centrale, c'est le cas de la France. D'autres n'ont pas eu recours au peuple, ont eu néanmoins, bien sûr, le fonctionnement normal de leur démocratie avec la Chambre haute, la Chambre basse, et en définitive, se sont engagés non seulement dans l'exercice en commun de la politique monétaire dans les conditions du traité, mais aussi se sont engagés dans la voie de la surveillance étroite des politiques budgétaires. On ne peut pas dire que ceci était caché. J'ai moi-même été convié dans mes fonctions antérieures au Conseil constitutionnel qui s'interrogeait sur la raison pour laquelle, alors même que l'on allait partager la souveraineté monétaire avec beaucoup d'autres pays, comment il se faisait qu'en plus on pouvait imaginer, si le pays ne se comportait pas de manière convenable sur le plan budgétaire, il y avait des sanctions qui étaient prévues. Et j'ai dû expliquer qu'effectivement, à partir du moment où on faisait le premier choix, le second s'imposait lui aussi, puisqu'après tout, la mauvaise gestion budgétaire imposait par elle-même une sorte de taxe sur l'ensemble des autres pays, compte tenu de la force du lien qui était créé sur le plan monétaire. Donc c'est, je dois dire, en toute connaissance de cause, et d'ailleurs il y a eu bien sûr un débat, il y a eu des critiques. En France, le paradoxe, si je puis dire, c'est que le cœur du traité dans ce domaine et le cœur du pacte de stabilité et de croissance a été inventé ici. Les 3%, oui, oui. Les Français ne le savent plus, mais les 3% de limite ont été inventés en France, sans aucune même référence d'ailleurs à l'Europe, simplement parce que c'était le bon sens.
Et le chiffre 3 était un peu pifométrique. Ça aurait pu être 3,5 ou bah, pourquoi 3 plutôt que 3,5.
En fait, il s'est imposé dans le monde entier, une référence dans le monde entier. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Bref, en effet, nous avons là un point central. Je crois que nous avons en ce moment, bien entendu, comme les autres grands pays avancés, je vais à votre seconde question, à revoir toutes sortes de défauts qui apparaissent parce que nous avons tous été passés au rayon X. La crise qui a été la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale et probablement qui aurait pu être la plus grave depuis la Première Guerre mondiale si on n'avait pas pris les décisions appropriées et en temps réel. Mais cette crise a révélé des faiblesses. Elle a révélé des faiblesses, vous l'avez dit vous-même, aux États-Unis, au Japon, partout. Tous les pays avancés se sont trouvés pris, en quelque sorte, dans la nasse de cette crise extrêmement grave. Et en Europe, encore une fois, le paradoxe est que ce n'est pas le consolidé de la zone euro ou de l'Europe qui est essentiellement en cause, mais le défaut de surveillance. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous, Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, moi-même en tant que président, nous demandons un grand changement, un changement radical dans la surveillance, à la fois des politiques budgétaires sur lesquelles vous venez d'insister, et aussi des politiques de surveillance, des évolutions de compétitivité relative, disons de surveillance des autres éléments de politique économique.
Alors la surveillance ne s'est pas appliquée puisque vous demandez qu'elle soit aujourd'hui renforcée. Cette surveillance, c'est celle naturellement des dérapages budgétaires qui se sont produits, donc de l'excès de dépenses publiques qui s'est produit dans un certain nombre de pays. Et ceci se traduit pour les opinions publiques par des politiques de rigueur, surveillance accrue et d'austérité dans la répartition de ces dépenses. D'où, quoi que nous fassions, le fait que les opinions publiques reviennent à la crise de confiance que Thierry de Montbrial rappelait il y a un instant.
Je crois qu'il faut que nous ayons le sens des proportions. Quand un ménage accumule les déficits représentant une part très importante de son revenu annuel, mettons pour simplifier 10%, 12%, 15%, comme certains pays avancés, certains pays industrialisés l'avaient fait, en pensant que ses enfants et ses petits-enfants vont naturellement prendre en charge le coût à venir de ces dépenses d'aujourd'hui. On n'est pas évidemment dans l'austérité et la rigueur, on est dans l'extravagance. Un certain nombre de pays étaient déjà extravagants avant la crise. La crise elle-même a accentué, évidemment, je disais qu'elle nous avait tous passés au rayon X, tous les pays avancés, pas simplement l'Europe, tous les pays avancés, pas simplement la zone euro, toute l'Europe. Dans ces conditions, ce que certains appellent des politiques d'austérité ou de rigueur, vu dans cette perspective où il s'agit quand même de protéger aussi ses enfants et ses petits-enfants, ce sont des politiques de sagesse élémentaire. Et par ailleurs, je dirais, ce sont des politiques qui sont absolument nécessaires parce que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nos concitoyens, je parle des 331 millions de concitoyens européens, pas simplement des Français, des 331 millions, et aussi de tous les concitoyens des pays industrialisés. Si on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne, ils voient bien qu'un jour ou l'autre, il faudra que ça s'arrête. D'ailleurs, on voit ce que cela représente. On l'a sous nos yeux maintenant dans un certain nombre de pays. Et par conséquent, il paraît évident que si l'on ne porte pas remède à cette situation, ils risquent de ne pas retrouver la confiance ou de perdre la confiance. Et ceci est vrai des ménages, ceci est vrai des entreprises, ceci est évidemment vrai des épargnants. Par conséquent, en menant des politiques que j'appelais de sagesse élémentaire, on prend la voie de la confiance. Et la confiance est l'ingrédient qui est le plus utile en ce moment pour consolider la reprise et aller vers la croissance et la création d'emplois qui sont fondamentaux, absolument fondamentaux, dans cette circonstance.
Thierry de Montbrial.
Alors évidemment, je pense que François Dorcival, moi-même, et j'imagine beaucoup de ceux qui nous écoutent, sont entièrement d'accord avec cette analyse qui repose largement aussi sur des considérations de bon sens et pas seulement sur des considérations techniques. Malheureusement, nous savons aussi que la rationalité n'est pas forcément l'apanage des masses et qu'il peut y avoir des mouvements de rejet que, historiquement, ensuite, on regrette. Donc, je crois que malgré tout, il y a matière à inquiétude. Et si je prends ma casquette d'économiste, je vous suis totalement. Si je prends ma casquette, disons, de politologue, je suis un peu plus inquiet sur ce qui est susceptible de se produire et les engrenages. Et sans parler d'ailleurs des chantages, je pense à l'Irlande, n'est-ce pas, qui joue actuellement un jeu qu'on peut décrypter assez aisément en termes stratégiques, mais qui est un jeu extrêmement dangereux pour essayer finalement, essayer quoi ? D'ailleurs, j'imagine que les autres prennent en charge une partie de la dette. Et d'ailleurs là, je vais prononcer aussi un mot obscène, qui est celui d'effacement de la dette, de haircut, etc., etc. Toutes choses qui sont évidemment largement discutées et considérées même par beaucoup comme inévitables. Donc, on ne peut pas ne pas envisager aussi l'irrationalité. Alors, comme j'aime bien poser les questions par deux, et puisque vous partez en Chine demain, donc, je voudrais vous poser aussi une question sur la Chine et les États-Unis. Dans ma propre expérience et les contacts que je peux avoir, le discours que nos amis chinois tiennent constamment aux Américains, c'est de dire, écoutez, vous nous demandez constamment la réévaluation du renminbi, etc., etc., mais commencez, vous, par mettre de l'ordre dans vos affaires, ce que, naturellement, les Américains ne font pas. Donc, ceci me ramène aussi à la question précédente, car il me semble qu'on peut discuter de l'affaire de l'euro en tant que telle, mais qu'on doit toujours la resituer aussi dans le contexte plus large.
Non, bien sûr, nous sommes plongés dans une constellation d'économie et de monnaie au niveau mondial. Nous avons bien entendu, dans la continuité d'ailleurs de ce qui a été fait depuis un très grand nombre d'années, depuis l'explosion du système de Bretton Woods, à veiller à ce que la constellation des grandes monnaies convertibles fonctionne de la meilleure manière possible. Ce sont des grandes monnaies flottantes qui flottent depuis le début des années 70. Et puis il y a la relation entre cet ensemble de grandes monnaies flottantes et les monnaies des très grands pays émergents, en particulier en Asie, qui elles-mêmes ne sont pas flottantes, ne sont pas librement convertibles. Et nous avons, je dois dire, au niveau mondial, un consensus. Nous avons beaucoup plus de consensus que ce que l'on soupçonne sur le diagnostic. Que doivent faire les États-Unis? Que doit faire l'Europe? Que doit faire la Chine? Pour simplifier outrageusement, tout le monde est d'accord. Les États-Unis ont un problème d'insuffisance d'épargne, qui est un problème très sérieux, qui est reconnu et qu'ils reconnaissent, et qui suppose en effet une inflexion de la politique macroéconomique substantielle. Les Chinois ont un problème d'excédent d'épargne très substantiel qui suppose là aussi une reconversion assez monumentale vers la demande interne. Ceci n'est pas contesté non plus et on en retrouve la trace dans un certain nombre de communiqués du G20 en particulier. Les Européens ont un problème majeur qui est un problème de réforme structurelle pour élever le niveau de leur croissance potentielle, même s'ils n'ont pas, en effet, de grands déséquilibres internes ni de grands déséquilibres externes. Le problème, c'est la mise en œuvre. Le diagnostic nous est commun très largement et on en a encore eu la preuve lors de la dernière réunion du G20 à Paris. La mise en œuvre est infiniment plus difficile. Vous évoquiez les problèmes de nature politique. L'interaction entre un intérêt commun supérieur et le fonctionnement de nos démocraties, c'est évidemment vrai avec le laboratoire que nous avons en Europe, si je puis dire, aussi bien sur le plan de l'union économique à 27, le marché unique, que sur le plan de l'union économique et monétaire, qui est un marché unique à monnaie unique à 17. Donc il faut, en partant du fait que nous sommes encore, si je puis dire, dans une constellation d'États souverains, nous sommes encore dans le westphalien en termes de diagnostic politique sur la souveraineté, mais nous partageons de plus en plus, nous sommes dans un système qui est très étroitement lié, très étroitement interdépendant, et il faut en effet arriver à internaliser les externalités correspondantes à ce que chacun des pays fait. C'est vrai au niveau européen, et c'est le grand, je dois dire, la grande ambition des Européens est effectivement de trouver la bonne solution, et c'est ce à quoi ils s'emploient. Mais c'est vrai aussi au niveau mondial, parce que l'économie mondiale est complètement intégrée. Maintenant, nous l'avons vu avec, je dois dire, la crise récente, et notamment le dépôt de bilan de Lehman Brothers, et ce que cela provoquait partout dans le monde au même moment. Et il est aussi difficile, comme vous pouvez l'imaginer, en effet, de faire en sorte que l'Europe, les États-Unis, la Chine, pour ne citer qu'eux, mais tous les grands pays systémiques qui sont évidemment en cause, acceptent d'intégrer dans leurs propres décisions nationales des éléments qui ne sont pas purement nationaux, mais qui tiennent compte des externalités au niveau de l'économie mondiale. Très, très grand sujet, sujet évidemment passionnant, c'est l'histoire qui se fait sous nos yeux.
Si l'on revient au laboratoire européen, et en particulier au petit laboratoire irlandais, par rapport à, par exemple, à ce qui se passe en Allemagne. Nous avons en Irlande un pays où l'extravagance a été la règle en ce qui concerne le système bancaire privé. Les finances publiques ont été conduites naturellement à sauver ce système bancaire privé. Mais c'est le système public qui l'a fait. Et aujourd'hui, ce pays vous demande, et c'est ce que Thierry de Montbrial appelle le chantage irlandais, vous demande à vous, Banque Centrale Européenne, de bien vouloir leur accorder une baisse des taux d'intérêts qui leur sont appliqués pour pouvoir supporter la charge, ou non, du point suivant. Ce n'est pas à nos citoyens, individus, privés, de prendre en charge les extravagances et donc les bêtises qui ont été commises par notre système bancaire. Quelle est la réponse que vous pouvez fournir à cela ? Et en outre, quelle est évidemment l'attitude de l'Allemagne qui, dans la consolidation à laquelle vous avez fait allusion, se trouve être celui qui est naturellement non seulement le poids lourd en Europe, mais celui qui montre l'exemple. Et donc, il y a à la fois le petit laboratoire irlandais en face d'une situation générale consolidée que vous avez décrite, où l'Allemagne est évidemment l'acteur principal.
Si vous permettez, avant que Jean-Claude Trichet ne réponde, j'aime bien cette manière de poser la question qui me fait penser aussi à l'affaire du Mediator, hein, qui apparemment n'a rien à voir. Donc ce médicament contesté des laboratoires Servier. Et maintenant, la question est de savoir qui va indemniser. Et l'État français dit qu'il faut que ce soit les laboratoires Servier intégralement. Et les avocats des laboratoires Servier disent pas question que ce soit nous, parce que l'État a commis une faute considérable, en l'occurrence, en défaut de surveillance. Donc effectivement, ça nous ramène à la question sur laquelle vous avez mis l'accent depuis le début, qui est la question des instances de surveillance. Et il y a eu défaut de surveillance un peu partout, donc... Comment, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit finalement, comment doit se répartir finalement, qui doit supporter la charge de la réparation ? Et tôt ou tard, la question sera soulevée probablement en termes très crus. Les Irlandais, peut-être les Portugais, les Grecs, que sais-je, demanderont à ce qu'une partie de leur dette soit purement et simplement effacée au nom d'une certaine conception de l'équité.
Comme un pays du tiers-monde.
Alors, laissez-moi commenter, bien sûr, parce que ce que vous venez de dire est extrêmement riche et complexe aussi. D'abord, tous les pays avancés, sans aucune exception, ont dû prendre des risques très importants pour faire face à la crise gravissime qui a frappé, disons, qui a commencé en 2007. Vous savez que la Banque Centrale Européenne est toujours fière d'avoir identifié dès le 9 août 2007 que nous étions dans une situation très grave sur le plan systémique, ce qui n'était pas reconnu par tous. Nous avons vraiment marqué là que notre diagnostic nous conduisait à penser qu'il fallait faire extrêmement attention. Et nous avons pris d'ailleurs des décisions très importantes dès le 9 août 2007, c'est-à-dire dès le début de la période de turbulence. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, des deux côtés de l'Atlantique, le montant total des risques qui ont été pris par les contribuables aux États-Unis et en Europe pour empêcher la grande dépression que nous évoquions il y a un instant, se sont élevés sous des formes diverses, recapitalisation, garanties diverses, schémas particuliers pour les actifs toxiques, etc., à 27% du produit intérieur brut dans nos calculs. Chiffre des deux côtés de l'Atlantique, ce qui donne la mesure de la difficulté dans laquelle nous sommes trouvés. Accessoirement, si les finances publiques au début de la crise n'avaient pas été crédibles aux yeux de l'ensemble des épargnants et des investisseurs du monde, on n'aurait pas pu échapper à la Grande Dépression. Et ceci est un argument que j'utilise moi-même très souvent lorsque on conteste qu'il soit nécessaire de redresser la barre au niveau de l'ensemble des pays avancés. C'est un argument très très fort. On a besoin dans le système complexe, très complexe, de la finance mondiale et de l'économie mondialisée, et les pays avancés en particulier, ont besoin d'avoir des signatures qui ne soient pas contestables. Même l'Irlande, dont vous preniez l'exemple, lorsqu'elle a garanti ses banques, était suffisamment crédible pour que cette garantie apparaisse immédiatement comme étant bien meilleure que la situation des signatures privées dans les autres banques commerciales en Europe ou éventuellement dans d'autres pays non européens. Donc j'insiste là-dessus. Deuxièmement, permettez-moi de dire simplement que pour moi les choses sont claires. Nous avons deux pays en réalité en Europe, pour le moment, vous avez cité l'Irlande, on peut citer la Grèce bien sûr, qui ont un programme du Fonds monétaire international. Nous ne sommes pas dans, comment dirais-je, un univers qui n'a pas été exploré. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le FMI existe, la communauté internationale existe, le financement du redressement d'un pays qui se trouve dans une situation difficile a été expérimenté à de très, très, très nombreuses reprises dans le monde entier. Et ce que nous faisons en l'occurrence, c'est le redressement d'un certain nombre de pays, deux pays en l'occurrence en Europe au moment où je parle, qui ont eu de grandes difficultés, qui engagent des plans qui sont des plans très importants, validés par la communauté internationale, validés par l'Europe, c'est-à-dire par la Commission en liaison avec la Banque Centrale Européenne. Et il se trouve, comme cela a été fait dans un certain nombre d'autres continents, que l'aide qu'apporte sous forme de prêt, et de prêt avec intérêt bien entendu, le financement, disons, qu'apporte le Fonds monétaire international, est complété par d'autres financements. Il ne s'agit pas d'autre chose au moment où je parle. Et bien entendu, nous faisons l'hypothèse que ces plans vont réussir. Je n'ai jamais vu d'ailleurs ailleurs dans le monde que l'on engage un tel plan en disant par définition il ne va pas réussir. Et il y a là, je crois, quelque chose qui est très important. Nous sommes dans un domaine qui a été exploré à de très nombreuses reprises dans le monde. Ce serait paradoxal que les Européens, qui sont précisément dans la situation que j'évoquais sur le plan de la situation consolidée, de la crédibilité, puissent se retrouver eux-mêmes dans une situation où ils feraient eux-mêmes la critique systématique de ce qu'ils se sont engagés, au contraire, à faire sur la base d'un consensus mondial d'abord. Il y a d'abord eu consensus mondial et ensuite diagnostic des Européens, de la Commission, en liaison avec la Banque Centrale Européenne et bien entendu du Conseil. Donc nous allons voir, pour ce qui concerne l'Irlande, je n'ai pas d'autre chose à dire. Nous venons d'assister à un changement de gouvernement. J'ai dit à plusieurs reprises que, bien entendu, le plan qui avait été adopté par la communauté internationale et par l'Europe est le plan de l'Irlande. Et c'est un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, bien sûr.
Ça veut dire que c'est un élément de confiance entre la communauté internationale, bancaire, financière, politique, et l'Irlande, quel que soit le gouvernement qui est à sa tête.
Quand je parle de communauté internationale, je pense évidemment avant tout au Conseil d'administration du Fonds monétaire international, parce que c'est là qu'en effet a cristallisé le diagnostic et la décision de financer ce redressement.
La dernière question de Alors, Thierry de Montbrial.
Vous venez de faire allusion aux nombreuses expériences qui ont été faites dans le passé, donc au savoir, la pratique du Fonds monétaire international. Évidemment, ici, nous sommes dans une situation tout de même nouvelle, qui est justement l'existence de l'euro. C'est-à-dire que les pays dont il est question n'ont pas la faculté d'évaluer. Et ça, évidemment, ça fait une différence importante et probablement d'ailleurs très liée au sujet de la communication que vous allez faire dans quelques minutes devant l'Académie, qui est comment réajuster les décalages de compétitivité quand on n'a pas la possibilité de procéder à des ajustements monétaires.
En effet, nous sommes dans une situation qui est, comme on l'a dit, une situation qui engage, puisque non seulement on partage la même monnaie, mais ceci conduit à la surveillance nécessaire par chacun d'abord individuellement. Je voudrais revenir un instant, parce que je n'ai pas relevé sur le champ ce que vous disiez, des responsabilités pour défaut de surveillance. D'abord, chacun est responsable de soi-même. Nous sommes dans un système qui est très clair de ce point de vue et qui fait porter la responsabilité par chacun des États. Nous n'avons pas voulu d'un système dans lequel la responsabilité budgétaire en particulier reposerait sur les autres pays. Nous sommes dans un système où chacun est responsable de sa propre politique. Cette politique doit en effet être surveillée. Je dois dire que de ce point de vue, il y a eu un moment très difficile, et notamment pour la Banque Centrale Européenne. Moi-même, j'ai dû faire en permanence, dans mes fonctions successives, la propagande, si je puis dire, pour le pacte de stabilité et de croissance. Et notamment en soulignant que les 3% étaient nés dans notre pays et qu'il était très paradoxal que celui-ci soit critique à son égard. Mais bien entendu, nous avons eu à faire face à des oppositions assez fortes. Et je ne peux pas dissimuler qu'en 2004, les grands pays européens, notamment la France, mais aussi l'Allemagne et mais aussi l'Italie, en fait les grands pays européens, se sont opposés assez violemment au pacte de stabilité et de croissance. Et ce faisant, ils ont affaibli le pacte, ils ont affaibli la surveillance. Les leçons de la crise, c'est qu'il faut au contraire formidablement renforcer la surveillance.
Monsieur le Président, et donc chers confrères, je voudrais vous remercier de cet entretien à Canal Académie. Merci encore.
Merci beaucoup.